Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de l'émission Okapi Service, qui gère réellement les problèmes du quotidien dans nos villes et quartiers. Sécurité, salubrité, route, eau, quelle responsabilité pour les autorités locales et les services publics. Nous abordons ces sujets avec le professeur Alidor Tshibanda, bourgmestre honoraire. Il est professeur, docteur hein, en sciences politiques, expert en territorial, politologue, professeur Tshibanda. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci madame.
Alors si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, composez le 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Sylvain Baoguere assure la mise en onde de cette émission, Meshak Mboutamoutou et Esther Mamboté le live sur nos réseaux sociaux. La réalisation est signée Benjamin Moudoumbi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À la animation, Jocelyne Moussaou. Insécurité dans certains quartiers, routes dégradées, déchets qui s'accumulent, fuite d'eau qui dure des semaines, caniveaux bouchés. Dans plusieurs villes du pays, les citoyens dénoncent des problèmes qui affectent directement leur quotidien. À Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a récemment critiqué le manque de fonctionnement régulier des comités locaux de sécurité, estimant que cela contribue à la dégradation de la situation sécuritaire. Mais au-delà de la sécurité, beaucoup de Congolais se demandent qui doit réellement gérer les problèmes des quartiers, quel est le rôle de chef de rue, de chef de quartier, de bourgmestre ou des maires, pourquoi certains problèmes semblent-ils durer sans solution. Pour en parler, je l'ai dit tantôt, nous recevons le professeur Alidor Tshibanda, ancien bourgmestre, politologue, docteur en sciences politiques et expert en territorial. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter les propos du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les autorités urbaines.
Les dernières évaluations nous amènent au même résultat. La ville de Kinshasa ne tient pas régulièrement ses comités de sécurité, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau des communes. Et nous sommes en train de gérer une situation sécuritaire alarmante. Si vous faites une comparaison dans d'autres provinces, vous analysez le comportement des responsables provinciaux urbains. Dans d'autres provinces, il est totalement différent. Et pourtant, Kinshasa a été la première province à bénéficier de la nouvelle gouvernance. Et ça, nous devons corriger. Il y a une tendance dans la ville de Kinshasa à faire croire que la sécurité n'est pas l'affaire de la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est très mal. C'est irresponsable et ça fait partie de toutes les conséquences de l'insécurité qu'on n'arrive pas à gérer. On ne tient pas des comités de sécurité au niveau de la province et ça a un impact sur les communes, sur les quartiers. Aucune coordination dans la question de sécurité. Avez-vous pris des mesures? Êtes-vous conscient de toutes ces menaces? Pourquoi subitement deux églises se font attaquer pratiquement de la même manière? Ça ne vous interpelle pas? Bien vous attendez que le président de la République prenne ça en charge. Pourquoi vous a-t-il donné les responsabilités que vous avez? Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, monsieur professeur Alidor Tshibanda, quelle lecture faites-vous des critiques formulées par le VPM de l'Intérieur?
Il a parfaitement raison, parce que la gouvernance territoriale dans notre pays est située à trois paliers. Où se gère à trois paliers. Nous avons, au premier palier, c'est le gouvernement central, avec tout ce qu'il a comme attribution et compétence. Mmh. Le deuxième palier, c'est les provinces qui sont des entités régionalisées, dont les compétences sont clairement définies dans la Constitution et la loi portant la libre administration des provinces. Et le troisième palier, Je peux même aller jusqu'au quatrième palier. Le troisième palier, c'est la décentralisation administrative, qui est différente de la décentralisation politique au niveau des provinces. La décentralisation administrative est de l'ordre de la loi, alors que la décentralisation politique ou constitutionnelle est de l'ordre de la Constitution. C'est la Constitution qui détermine les compétences des entités régionalisées, comme on les appelle. Et au niveau de la décentralisation administrative, c'est-à-dire les ETD, communes et villes, communes et secteurs, nous avons la décentralisation qu'on appelle administrative, c'est du pouvoir de la loi. Mais à côté de tout ça, nous avons aussi des entités qu'on appelle les entités déconcentrées, qui sont dépourvues de personnalité juridique. Nous avons les territoires, comme Kasangoulou, comme Luebo, comme Mweka, comme Mahagi. Ce sont des territoires qui sont des entités territoriales déconcentrées. Nous avons le quartier. Le quartier, c'est une entité territoriale déconcentrée. Nous avons le groupement et on peut aller jusqu'au village. Mais je dois avouer ici que dans l'organisation territoriale de notre pays, on retient l'avenue ou la rue comme une composante du quartier, mais dont le mécanisme de gestion ne sont pas définis, ni par la loi, ni par un acte réglementaire. J'avais salué le programme du gouverneur qui venait de partir, le gouverneur Ngoubila, qui avait prévu qu'il fallait travailler, dans son programme, il avait prévu qu'il devait organiser le fonctionnement des rues. Parce que ce sont des volontaires. Un notable de l'avenue, qui a passé plus de 10 ans dans l'avenue, qui peut être choisi par le chef de quartier pour animer cette avenue-là. Mais il n'a pas de compétences reconnues ou définies par un acte ni réglementaire, ni encore moins par la loi. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et à chaque niveau de responsabilité, le droit où il y a un certain nombre de compétences qui sont reconnues à chaque responsable. Pouvons commencer au quartier. Ils ont la mission d'assurer l'hygiène et la salubrité publique, de maintenir l'ordre public. L'ordre public a 3 paliers. C'est le premier palier, c'est la salubrité publique. Le deuxième palier, c'est la tranquillité publique. Et le troisième palier, c'est la sécurité publique, c'est-à-dire la protection des personnes et de leurs biens. Mais quand on constate ce qui se passe, c'est comme si les autorités n'arrivent pas à prendre en main cette épineuse question du maintien de l'ordre public. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur national s'en plaigne. Parce qu'à chaque niveau, pour ne pas dire au niveau, je commence par la commune, l'autorité communale a dans ses attributions, il est l'autorité du conseil de sécurité locale de son entité, et dans son fonctionnement, il a à côté la police qui l'accompagne comme son bras séculier pour maintenir l'ordre public. Il peut requérir la police, et la loi lui reconnaît, dans le maintien de l'ordre public, il a le même pouvoir que toutes les autorités affectées à cet effet. Parce qu'il peut ordonner aux policiers ou aux militaires, lorsqu'il y a débordement excessif, de pouvoir tirer par sommation. Donc, il a tous les atouts pour assurer la sécurité totale de son entité. Donc, s'il se pose un problème, il est normal que le patron de l'intérieur de la République s'en plaigne, parce que chacun, à son niveau, a des compétences voulues pour garantir l'ordre public. Lorsqu'il ne les fait pas, c'est qu'on les déclare incompétents ou il a failli.
Mais pourquoi ces mécanismes dont vous parlez ne fonctionnent pas ou fonctionnent difficilement?
Ah, maintenant, il faut questionner la manière dont ils sont recrutés. C'est là que tout part. Ils viennent d'où? Ils étaient préparés à ça. Et en les affectant, on leur a dit quoi? quels sont les atouts dont ils ont bénéficié pour assurer ce maintien de l'ordre. Là, il se pose un problème. Quand vous prenez quelqu'un qui était habitué à une chose et vous le mettez, qui était commerçant par exemple, qui était, je ne sais pas quoi, qui était enseignant, directement vous lui donnez les fonctions de bourgmestre. C'est une fonction très honorable. Quand vous allez en Belgique, un bourgmestre n'est pas n'importe qui. Il y a même des ministres nationaux qui quittent ou des députés nationaux qui quittent leurs fonctions pour rentrer à la base comme animateur des entités décentralisées. Donc, on doit savoir quels sont les critères qu'il faut mettre en place pour recruter si on ne sait pas organiser des élections.
Oui, mais quel est le bon profil pour vous pour
le être bon profil.
Chef de rue, bon, chef de quartier.
Bon je ne saurais pas trop parler du chef de rue parce que les compétences ne sont pas clairement définies. Le chef de quartier, moi, j'ai un cours, itinérance et inspection territoriale. Je commence à nourrir l'envie de voir que les jeunes gens qui terminent leur licence ou leur maîtrise en sciences politiques administratives, en sociologie, peuvent être de bons animateurs de la territoriale. Même ceux qui font l'ENDA, l'École nationale d'administration, ce sont de bons animateurs de la territoriale. Comparaison n'est pas raison, mais quand vous prenez Mobutu, tout au long de son régime, Mobutu travaillait beaucoup plus avec ces jeunes gens-là. Vous terminez l'université, on vous prépare ici au ministère de l'Intérieur. Il y avait une école de la territoriale. Je ne sais pas si cette école continue à fonctionner. On vous prépare à accéder aux fonctions d'administrateur à l'époque, commissaire des zones, commissaire sous-régional, adjoint, commissaire urbain et pourquoi pas gouverneur. Vous prenez, je vous donne deux cas. Madame Nzuzu Ambombo qui venait de nous quitter a commencé par être bourgmestre à Kinshasa avant de devenir gouverneur. Elle a été rodée et préparée, formée quant à ce pour accéder à cette fonction là. Je pourrais aussi ne pas me limiter qu'aux jeunes gens qui font les sciences po. Je peux dire aussi que c'est du rôle des partis politiques. Parce que le parti politique a dans leur dans ses attributions, dans ses fonctions, la préparation et la sélection des gouvernants. Donc le parti forme des cadres pour animer les institutions de la République. Je voudrais bien voir de partis politiques solliciter de professeurs d'université, de hauts cadres de la territoriale, venir former les jeunes qu'ils comptent préparer à accéder à ces fonctions-là. Ça va être une bonne préparation.
Ou parce intégrer que, leur parti
oui,
politique.
Mais quand vous ramassez des gens, mon beau-frère, mon cousin, il est chômeur, je dois le placer dans la territoriale, nous assistons à cette léthargie-là. Parce qu'ils y accèdent sans savoir c'est à quoi ils seront appelés à faire.
Donc vous pensez que c'est un problème de recrutement et de préparation?
Il y a un problème de recrutement et de préparation des cadres qui doivent faire la territoriale. Ce n'est pas, la territoriale est technique au départ. On ne recrute pas n'importe qui.
Mais maintenant que tout est pratiquement...
c'est pourquoi nous assistons. Mais avec la politisation, on fait des actions d'éclat pour donner l'impression qu'on travaille, alors qu'en réalité, on n'est pas dans le bain du travail comme il se doit. Il faut, un territorial n'a pas des droits, il n'a que des obligations, des devoirs par rapport à la population. C'est comme un militaire, il peut dormir au bureau. Il peut dormir partout, pourvu que le travail pour lequel il est là, le maintien de l'ordre public est assuré. C'est ça, pour qu'il aille dormir, il doit se rassurer que dans mon entité, tout est calme. Et garder son téléphone ou sa machine de communication en alerte. Parce qu'il gère la population, tout peut basculer à tout moment.
À tout moment. Mais est-ce que on peut aussi, enfin, on peut également passer par ces voies, comme vous dites, les partis politiques, et se rattraper après, se former?
Moi, je me demande pourquoi l'université forme. Mm. Je suis en train de suivre les gens dire, on ne forme que les sciences sociales, les sciences humaines, on fait fi de la technologie, on fait fi de la science, on fait fi de ça. Mais ce pays, c'est un continent, il doit être gouverné. Mm. Et pour qu'il soit gouverné, il faut avoir une élite compétente. Mm-hmm. Ce n'est pas, on ramasse tout le monde, on les met dans le bain et on pense que nous aurons les résultats à coup de baguette magique. Non, non. Tout se prépare et la formation doit être de rigueur.
Pour des raisons pédagogiques, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire, professeur Tshibanda, c'est quoi le rôle du chef, du quartier, du bourgmestre, du maire? Et quelles sont leurs responsabilités concrètes dans la vie quotidienne?
Le maintien de... Je me répète encore, okay. C'est s'occuper, c'est rassurer que la population
chacun
vit.
Chacun à son niveau.
Le quartier, il a l'obligation d'encadrer administrativement la population. Donc, c'est une autorité de proximité. Il doit connaître sa population et le problème auquel sa population est confrontée. Et il doit savoir qu'il y a un nouveau venu dans mon quartier. Il vient de telle part. Il est venu pour habiter ou il est de passage.
Les gens ne sont
il doit identifier tout ça. Non, le chef de quartier doit avoir des mécanismes d'identification de sa population. Mais c'est pourquoi on lui demande de présenter chaque année le rapport de recensement administratif.
Les gens déménagent.
Donc on doit savoir.
Comme ils veulent,
il n'y a pas de problème, mais au niveau du quartier, on doit
sans se faire identifier.
On doit être capable de maîtriser ce mouvement de population-là. Sinon, c'est l'insécurité. On doit savoir pourquoi il a quitté le quartier...
Kimbanteke,
c'est
une commune. Kingasani.
Kingasani. Faudra-t-il vérifier si c'est un quartier? Parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui n'existent que dans le langage courant.
Ouais.
Mais quand vous vérifiez administrativement, ça n'existe pas. Voilà. Je prends par exemple Pompage.
Ou GB.
Ça reste à vérifier. Je donne un cas que je connais. Par exemple, Sangamamba. Ce n'est pas un quartier. Sangamamba se trouve dans le quartier Bumba. Vous comprenez? Mais les gens parlent plus de Sangamamba. Donc, une avenue peut imposer à l'ensemble de l'entité un nom, alors que le nom, ce n'est pas celui-là. Donc, il y a des choses comme ça auxquelles on est habitué. Donc, le chef de quartier doit connaître le mouvement. C'est pourquoi je m'insurge contre les superficies de certains quartiers. Vous allez, par exemple, le quartier à Mongafula, le quartier Mitendi. C'est plus que la commune de Bumbu. Donc, il faut des quartiers contrôlables et gérables.
Où
c'est aussi ça
GB
un problème.
Le quartier GB dont on parlait, qui se trouve dans la commune de Ngaliema.
Je n'ai pas géré...
Ngaliema...
Et une partie à la Gombe, vous comprenez tout ça. Donc, il faut des quartiers contrôlables et gérables.
Oui.
Hein? Un quartier... Si on dit, par exemple, que le minimum pour, commune, pour la commune, c'est 20 000 habitants. Mais comment vous pouvez avoir un quartier avec 100 000 habitants? Donc là, il y a aussi un problème de gouvernance.
Tout à fait.
Et tout ça doit être pris en compte, même qu'on ne reproche pas seulement les hommes. On va encore reprocher les hommes parce que le découpage de Kinshasa est une exigence administrative. Il faut rendre Kinshasa gérable. On peut tout reprocher. Un bourgmestre de commune, il gère une entité qui va au-delà de certaines villes du pays, du monde. Il gère 500 ou 300 000 kilomètres carrés.
Mais c'est la population qui croit.
Il faut tenir compte. Kinshasa peut compter. Aujourd'hui, on peut aller à 50 ou 60 communes. Comment?
Ou carrément depuis 69, d'autres villes, depuis 69,
où il y a eu découpage de Kinshasa en 24 communes, nous continuons aujourd'hui avec une population qui a quadruplé, pour reprendre le discours, le propos du chef de l'État, mais on continue à avoir le même nombre, les mêmes quartiers, et il faut y réfléchir. Nous devons, pour être efficaces,
doter la ville de Kinshasa des quartiers gouvernables pour permettre aux chefs de quartier de répondre à leurs obligations. Il y a aussi un deuxième problème. Nous avons des chefs de quartier qui nagent entre 70 ans, 80 ans et même 90 ans.
Et qui maîtrisent des gens, mieux les problèmes de leur quartier.
Même alors, mais ils maîtrisent. S'ils maîtrisaient bien, pourquoi on continue à se plaindre? Donc, il y a tout ça. Il y a le problème de la recherche de l'efficacité et de l'efficience en découpant encore davantage le quartier, en découpant encore davantage les communes, pour permettre à ce que ces entités deviennent gouvernables. On ne peut pas être bourgmestre avec tout ce qu'on a comme compétence et gérer plus de 100 000 habitants. C'est énorme.
Mais est-ce que ces bourgmestres, est-ce que ces autorités disposent des moyens? On va y revenir. Des moyens d'action, on va y revenir, mais on prend d'abord un auditeur.
Les moyens d'action, ce sont les hommes qui les créent.
On va y revenir, merci professeur. Merci. Il est temps pour nous de prendre Joseph Mbouyi, qui nous appelle depuis Likasi, pour son intervention et certainement ses questions. Bonjour Joseph Mbouyi.
Bonjour Radio Kapir, bonjour l'invité.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Joseph.
Ok. Je fais les deux préoccupations à ce jour. Je vous entendais beaucoup parler de Kinshasa. Maintenant, moi, je veux parler de notre ville que nous en avons l'Ikasi aujourd'hui. L'État République démocratique du Congo a son image d'administration. Donc, le sujet que je voulais savoir à l'invité, c'est pour savoir l'administration et la politique qui dirige qui. Maintenant, si ces politiques dirigent l'administration, c'est difficile d'arriver à donner la capacité des quartiers et riches et gérer eux-mêmes et à toutes les responsabilités. Parce que c'est les politiques qui imposent tous. Si c'est l'administration, il faut donner la capacité de celui qui vient gérer cet quartier, qui est quoi. Parce que nous voyons beaucoup de choses politiques braves tous. Il y a le bon frère, le cousin. Lorsqu'il n'a pas jamais de capacité de gérer cette commune, cette quartier, on lui donne pour donner la façon d'être à les sympathisants et tout son corps. Mais ça, monsieur l'invité, qui peut gérer une rue, un quartier ou une commune, de quelle étude, à l'émanation de quel professionnalisme, maintenant c'est ce que je voulais savoir. Aujourd'hui, les chefs de quartier, ce sont des bons frères, ce sont des cousins, pas de moyens d'avoir la méthodologie de gérer la population, c'est plus légère. Maintenant, c'est la politique qui brave tout. On ramasse les gens de la rue sans être formés. Maintenant, on lui met, ça devient des bourgmestres et des communes, ça fait de notre parti politique. Nous partageons cette fonction comme ça. Les trois. Le vieux papa, depuis 1960, des communes de santé, ils ne veulent pas m'équiper de ce que c'est pour ce jeune petit frère. Ils ne sont pas moyens. Leur mémoire est déjà terminée à travailler. Mais ils bravent les petits garçons qui sont très sages à voir travailler. C'est cela qui donne le problème. Notre ville quotidienne est mal gérée. Notre ville, notre quartier, a quotidiennement est mal gérée. Merci. Je vous remercie.
Merci Joseph Mbouyi depuis Likasi. Professeur Tshibanda, votre réaction par rapport à l'intervention de Joseph Mbouyi?
Bon. Je ne vois pas ce que je veux dire parce qu'il nous a rencontrés. Il a fait l'état de ce que nous sommes en train de déplorer. C'est pourquoi je ne vois pas, je ne fais que le remercier parce qu'il a porté, il a suffisamment encore clarifié ce que nous sommes en train de dire. Je crois que le problème c'est le recrutement, il l'a dit. Le problème aussi c'est la vieillesse de ceux qui dirigent nos quartiers. Il l'a soutenu et moi je vous rappelle aussi que ces gens-là pour la plupart ont été des anciens du MPR, des anciens cadres du MPR. Quand Mobutu, quand le MPR devenait parti fait privé, on les a versés directement dans la territoriale et c'est comme ça que ils se sont retrouvés comme chefs de quartier. Mais il est presque urgent de se pencher sur la gouvernance de nos quartiers pour donner une nouvelle impulsion. Même pas en les décentralisant, mais déjà quand vous avez un jeune dynamique ambitieux, il est capable d'apporter un plus dans l'édification de son entité.
Et est-ce que les chefs des rues, ça existe encore de nos jours, professeur?
Mais je venais de vous dire que dans notre organisation administrative,
mm-hmm. Et sur terrain, est-ce l'entité que concrètement,
rue,
on a de...
l'entité rue ou avenue sont reconnues, mais leur mode de fonctionnement n'est pas prévu. C'est le chef de quartier qui s'organise pour mettre un notable de l'avenue qui peut se réveiller et travailler. Nous avons, par exemple, à Kinshasa, beaucoup d'entités de fête. Vous avez des localités qui continuent à exister. Par exemple, à Ngaliema, à Mongafula, il y a des chefs de localité. Vous comprenez? À Bumbu, peut-être que ça n'existe pas. Donc, toutes ces structures-là sont tributaires de l'inefficacité de notre découpage de la ville. Il faut d'abord revisiter cette ville, rendre les entités gouvernables à chaque niveau. S'il faut avoir 20... Moi, j'ai travaillé sur un projet où j'avais proposé que Kinshasa soit érigé directement en province. Avec des entités déconcentrées comme Maloukoula, faire de Maloukoula un territoire. Un territoire dans lequel on va retrouver des communes, deux ou trois ou quatre, parce que Maloukou, c'est deux fois ou trois fois l'espace que nous nous habitons. C'est trois fois l'espace que nous nous habitons à partir d'Enzélé jusqu'à la Gombe ici. Donc, créer même trois ou cinq communes au sein de Maloukou. Et puis, de l'autre côté, créer également des villes. Par exemple, prendre une partie de Bandalungwa, une partie de Kitambo, une partie de Ngaliema.
On va dire les districts.
Une partie... Revisiter, reformuler les choses. En faire des villes. Par exemple, comme quand vous allez à Paris, il y a ce qu'on appelle Île-de-France, dans laquelle Paris est dedans. Et à côté de Paris, vous avez... de communes, de banlieues proches Paris et c'est le ville qui sont très éloignées de la ville de Paris. Donc faire en sorte que Gombe avec quelques communes découpées fasse ce qu'on appelle la ville de Kinshasa. Et puis
on a d'autres villes.
Créer d'autres villes à côté
dans la province de Kinshasa.
Donc ça sera une manière de rendre cette ville ou cette mosaïque gouvernable. Mais dans l'état actuel, il est difficile parce que le gouverneur risque de terminer son mandat sans passer partout. Vous comprenez? Moi, j'ai géré Mongafula. Je suis allé jusqu'à Mbunda.
Il est gouverneur de Maloukou à Loutendel.
Non! Il est gouverneur de la province, donc de Maloukou à Loutendel. Mais cette province est... On y crée aussi des villes, on y crée des communes, on peut créer aussi des territoires. Vous comprenez? Pour que ça soit administré, la ville n'est pas totalement prise en charge. Il y a des endroits où la police n'existe même pas. Moi, j'ai géré Mongafula, je sais ce que j'ai dit. Il y a des endroits où vous trouvez qu'un seul policier, avec son arme, il impose l'autorité, il utilise même des civils pour l'accompagner dans la mission de police. Donc tout ça, ce sont des problèmes de gouvernance. Il faut revisiter la ville et créer des conditions d'efficacité et d'efficience pour que la ville soit totalement prise en charge. C'est comme ça qu'on dit que l'autorité de l'État existe. Il ne faut pas parler de l'autorité de l'État en créant de monstres qui n'assument presque pas le pouvoir public. C'est incapable.
Nous allons prendre deux auditeurs en ligne. Omar Kigalou nous appelle depuis Kinshasa et puis on prendra l'appel de Honoré Chibouaboua depuis Mbujimayi. Omar Kigalou, bonjour.
Bonjour madame. Bonjour professeur.
Votre contribution à cette émission et vos questions à notre invité.
J'ai fait mienne des interventions pertinentes de l'invité, mais moi je voudrais relever une cause majeure que le professeur n'a pas indiquée. La plus grande cause, c'est les mimétismes ou les suivismes aigles que nous, Africains, particulièrement Congolais, avons. On a opté pour la décentralisation on a oublié que c'est une méthode processuelle qui prend trop du temps, coûteuse, qui demande beaucoup de moyens et technique qui demande beaucoup d'études. On est allé vite en besogne et voilà les conséquences. Au-delà des causes qu'il évoque, il y a aussi une cause importante, cher professeur, l'absence des moyens. La décentralisation, pour qu'elle soit effective, il faut accorder des moyens aux entités qu'il cite, la commune, le quartier, la chefferie. Mais il y a aussi un problème, l'absence des volontés politiques. Madame, contrairement au professeur l'invité, moi je voudrais dire que la loi existe. La loi 17 octobre 2008 sur les entités territoriales décentralisées. Elle a prévu le mode d'organisation. On parle de la commune qui est composée des quartiers avenues, de la ville qui est composée des communes, on parle du territoire. Je prends par exemple l'article 60 qui détermine les attributions du bourgmestre et comment il doit fonctionner avec le conseil communal. Ça n'existe pas, on ne respecte pas. Il y a des conseillers communaux qui ont aujourd'hui plus de 36 mois d'impayement. Autre chose, l'article 115 de cette loi dispose des sources, des ressources par rapport aux communes. On parle des ressources propres et des ressources nationales. La loi oblige à l'État central, les gouvernements centraux, d'accorder 40% aux provinces et aux entités. Ça n'a jamais été respecté depuis qu'on existe. Alors comment voulez-vous que nous avancions des théories si la loi qui existe déjà n'est pas respectée? Une ville n'a de sens que si elle répond à trois critères. On y circule librement, on y vit décemment et on habite paisiblement. Donc je suis d'accord avec les professeurs, il faut préparation, mais tout commence par la base. Aller circuler nos partis politiques, ils ne réfléchissent pas. C'est devenu une idolâtrie. Le président est comme le dieu. On oublie que les partis politiques, à part conquérir les pouvoirs, a une mission d'éducation civique. Ça ne se passe pas. Voilà pourquoi moi je l'ai dit, sans embâche ni à Nicroche, aucun parti politique au Congo n'est sérieux. Ils sont là de manière opportune.
Ce sont des propos qui vous engagent, monsieur Ogbomar.
Ça n'engage que moi.
Kigalou.
Prochainement, quand on parlera des pratiques politiques, je vous en démontrerai. Donc, madame, je suis pas seul. Les problèmes que les profs soulèvent est réel, mais qu'ils ajoutent aux causes les non-respect de la loi qui existait déjà, 17 octobre 2000, qui a tout prévu et qui n'a jamais été respectée. Si on respecte cette loi, la décentralisation aura un sens.
Merci Omar Kigalou. Avant la réaction de professeur Tshibanda, on va prendre aussi l'avis de Honoré Tshibwaboa qui nous appelle depuis Mbujimayi. Bonjour Honoré. Honoré, veuillez activer votre micro et éteindre votre poste récepteur s'il est allumé. Honoré Tshibwaboa, activez votre micro et prenez la parole. Non, on va tenter de couper l'appel et le rappeler. Professeur Tshibanda, Alidor, votre réaction par rapport à l'intervention d'Omar Kigalou?
Oui, oui, j'apporte d'abord un correctif. Je n'ai pas dit que la loi n'existe pas. Tout ce que je suis en train de dire, je le tire de la loi. Je n'aime pas trop parler de volonté politique. On n'a pas une volonté dès lors que les lois ont prévu le mécanisme de fonctionnement. Où on se soumet à la loi, on agit en fonction de la loi, parce que c'est la volonté générale qui doit être appliquée. Mais quand on tombe sur la volonté politique, on n'a pas de volonté politique. Nous parlons dans des pays où les lois ne sont pas très bien respectées et la gouvernance est tributaire d'un système décrié qu'on appelle le patrimonialisme. Donc, quelqu'un s'approprie l'État, il voudrait que sa volonté devienne une loi. Non! C'est la volonté générale que vous devez appliquer. Vous êtes soumis à la volonté générale. Donc, volonté politique, c'est un terme trop ambigu qui me ramène, qui m'appelle toujours à l'arbitraire. Hein? Je n'aime pas ce terme-là. Nous avons des défaillances en termes de la décentralisation. La décentralisation, ne la concevons pas toujours. Tous les termes en termes de mimétisme, en termes de copier-coller, mais essayons de voir quels sont le. Parce que quand on parle de décentralisation, il y a des exigences qui sont universelles. Vous voulez créer votre décentralisation, trouvez votre terme. C'est comme quand on parle de la démocratie. La démocratie a ses exigences qui sont universelles. Où on est dans la démocratie, où on n'est pas dans la démocratie. Si vous voulez
inventez votre démocratie, trouvez votre concept, adaptez-le à la réalité et montrez les gens le modèle que vous voulez qu'on adopte. Donc, quand la démocratie dit la loi de la majorité, respectons la loi de la majorité, n'allons pas chercher des termes là où les principes sont déjà établis. Donc, il veut qu'on récuse la décentralisation, alors que nous ne l'avons pas encore totalement appliquée. Hein? Même au niveau des provinces, on ne l'a pas encore totalement appliquée. Qu'on évolue tel que nous sommes en train d'évoluer, tout a un processus. Même le modèle qui veut imposer aura toujours un processus. Ceux qui sont là sont des cobayes. Peut-être que ceux qui viendront pourront... Aujourd'hui, on discute sur la revisitation de la Constitution. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit adapter. Et notamment notre perception de notre démocratie ou du fonctionnement de nos institutions. Je ne veux pas qu'on ait une perception édulcorée de la démocratie. Le problème de moyens, je lui donne raison en partie, mais on décentralise pour que localement, on soit en mesure de produire les moyens. On ne décentralise pas pour attendre du gouvernement central le moyen. Peut-être là, je peux lui donner raison, parce que on n'a pas mis en place des managers capables d'inventer des mécanismes de mobilisation des recettes à partir des instruments qui sont mis à leur disposition par les lois de la République. Et j'en viens à l'ordonnance loi numéro 13 ou numéro 18 portant nomenclature des taxes et des recettes. Cette ordonnance-là a posé des problèmes. J'ai eu l'avantage de participer à un forum sur la décentralisation ou la gouvernance urbaine au niveau du Maroc. Et là, nous avons également travaillé sur la capacité, sur la mobilisation des recettes. Nous avons eu à participer à une discussion avec le maire d'une ville de Burkina Faso. Il nous a présenté le mécanisme qu'il a dû mettre en place pour une mobilisation locale des recettes. Il a dit par exemple qu'il a créé des poulaillers, il a créé de ceci, pour que localement, il produise des recettes pouvant soutenir la gouvernance de son entité. La gouvernance de son entité. Mais est-ce qu'ici chez nous, qu'est-ce que nos autorités locales ont dû mettre en place?
Mais vous avez été bourgmestre, professeur, au niveau des communes que vous avez dirigées, est-ce que vous aviez...
Le premier problème, c'est d'abord la transparence. Est-ce que la gestion de nos entités est saine?
Mais pour
elle est transparente. Moi, je voudrais, il y a encore des problèmes de mécanisme de collecte de fonds et l'inculture fiscale.
À Kinshasa, par exemple, il y a des marchés qui payent tous les jours.
Je suis en train de regretter le fait que, par exemple, que la ville prenne le marché communément appelé marché Selembao. Ils pouvaient juste aider la commune à réhabiliter ce marché, la passance au marché. Moi, j'étais plus de 10 ans bourgmestre de la commune de Selembao, de Bumbu. Ce marché-là, lorsqu'on l'enlève de la commune de Bumbu, cette commune risque de ne pas fonctionner. Parce que quand il pleut, le fonctionnement pose problème. Maintenant que la ville prend le marché, je me demande comment le gouverneur compte booster la viabilité de la gouvernance de nos communes avec le retrait de leurs poumons.
Et le problème qui se pose au niveau de ces entités, est-ce que c'est l'affectation de fonds ou la collecte carrément?
Il y a un problème de collecte d'abord, et un problème d'affectation parce que ce qui est dû aux entités de base par le gouvernement central ou la ville ne vient pas régulièrement. Et ça pose un problème. Ça pose le problème d'exécution des budgets. Vous comprenez? Par exemple, on vous dit que en recette propre, c'est 40%. Et en recette... issu du gouvernement central, on vous donne 60%. Mais ce qui vient du gouvernement central ne vient pas. Comment vous allez réaliser le développement avec le 40% localement mobilisé? Donc là, il a raison, il y a un problème qu'il faut revisiter en termes d'allocation des ressources et de mobilisation locale des ressources. Je plaide pour la révisitation de la nomenclature des taxes qui ne donne pas clairement de moyens aux entités de base pour assurer leur développement local.
Donc ces entités ont un sérieux problème de moyens.
Mais je voudrais aussi, tout en plaidant, pour qu'on révisite cet acte-là, que l'IGF descende aussi dans des communes, qu'il fasse le travail qu'il a dû faire dans des villes et dans des provinces pour permettre d'apprécier la capacité d'autoprise en charge de ces entités-là par leur propre mobilisation. C'est très important.
Mais face à ce manque de moyens, est-ce qu'il faut encore...
Est-ce qu'il manque réellement de moyens? Il manque réellement de moyens.
Mais vous dites que les entités... Enfin, il y a un problème de collecte, il y a des entités...
Tout ça, mais le peu qui entre, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème.
Mais c'est à vous de nous dire, vous avez...
Moi, je suis mal placé d'en parler.
On va prendre d'autres auditeurs en ligne. Robert Adiokou et Djidra nous appelle de Bounia, en Ituri. Monsieur Robert, veuillez éteindre votre poste récepteur pour qu'on puisse bien vous suivre. Et suivez-nous à partir de votre téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Robert Adiokou, vous êtes en ligne? Non, il n'est plus là. On va tenter d'avoir encore Honoré Tshibwabwa depuis Mbujimayi. Honoré Tshibwabwa, est-ce que vous êtes avec nous? Honoré Tshibwabwa est là, mais son micro n'est pas activé. Hein. Il y a quand même de... Un retour là. Honoré Tshibwabwa, si vous nous écoutez, veuillez prendre la parole. Un problème de réseau, de communication. On passe à Ekangambole Zanga, qui nous appelle de Bounia, en Ituri. Espérons que nous allons la voir. Ekangambole, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste. Je vais l'inviter. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Bon, l'invité, il est venu bien parler pour cette la motivation des taxes dans toute l'étendue du pays, de notre province, de notre pays. C'est bien, mais ici, notre ville, ici, à Bounia, il y a beaucoup de populations qui donnent des taxes, mais ces taxes-là, ils ne font pas une action. Et tant que nous sommes dans la ville, les Ituriens, notre aéroport, ça a déjà venu un aéroport international. Il y aura beaucoup de gens qui doivent commencer à venir ici dans notre ville, mais la ville est trop sale. Malgré des boudreaux, beaucoup de gens de l'État qui pensent pour le temps se demander la population des taxes, ce n'est pas mauvais, mais il faut aussi voir la misère que la population congolaise qui traverse ici dans notre ville. L'État que moi je vois, il y a des mamans, des jeunes papas, des jeunes filles, des jeunes garçons qui marchent ici dans notre ville. C'est la honte de notre pays. Et tant que nous avons toute la richesse de notre pays pour exploiter les peuples congolais, ne souffrir jamais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il doit mettre une politique nationale, internationale, dans toute l'étendue de notre pays pour voir que la misère de la population congolaise, il traverse une misère. On n'est jamais... voir dans d'autres pays dans le monde entier. Le gouvernement, je vais demander aussi le gouvernement provincial de notre province de l'Ituri, il sensibilise d'abord les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici des combattants, les jeunes qui ont la force de faire quelque chose dans leur province, dans leur ville, mais ils n'ont pas une soutien favorable. Le gouvernement doit inciter tous les jeunes congolaises et congolaises de travailler dur. Et tant que moi je suis jeune, moi aussi maintenant je suis au boulot, je travaille, malgré il n'y a pas aucun appui, il n'y a pas aucun gouvernement qui doit me voir de me soucier ce que j'ai fait.
Merci Ekangambole et Christian depuis Bounia. Robert Adiokou et Didra est à nouveau en ligne depuis Bounia aussi, en Ituri. Robert, on vous écoute. Activez votre micro et éteignez votre poste récepteur pour qu'on puisse bien vous capter. Bonjour.
Merci beaucoup. Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale. Vraiment, félicitations à la radio Capi à l'invité un sujet très très important. Comme l'intervenant venait de le dire, la territoriale, c'est la colonne vertébrale de l'administration. Il n'y a pas le temps pour faire toutes les démonstrations. Pour votre information, je suis un bourgmestre honoraire, un entretien du territoire honoraire, et même un chef de groupement honoraire. Donc c'est une très très lourde responsabilité d'être cadre de la territoriale. Pour compléter l'intervenant, il y a l'entretien du territoire qui souffre. Si les territoires peuvent devenir, redevenir les entités territoriales décentralisées pour bénéficier des actes générateurs de recettes, afin de faire face à tous ces problèmes. Il y a les quartiers et les avenirs. On doit aussi voir comment on peut les rémunérer. Parce qu'ils souffrent, je vous assure, ce n'est pas facile. Les bourgmestres ont de très lourdes responsabilités. J'ai entendu mon compatriote, mon frère direct Dissant, de Bounia, qui venait d'intervenir. Mais à chaque élaboration de budget, on organise la conférence budgétaire, il faut qu'ils viennent participer. Je vous assure, ce n'est pas facile. Au niveau de la commune, il faut s'occuper de la sécurité. Et puis, il faut construire les passerelles, des petits ponts, de ceci, il faut payer les agents. Ce n'est pas facile, je vous assure. À notre époque, on nous installait dans le néant, dans la rue, sans bureau, sans budget. Ça n'a pas été facile. Et nous avons pris au moins, comme c'était une année électorale, nous avons pris au moins 3 ans pour asseoir l'administration et organiser les finances au niveau de la commune. Et Dieu merci, l'état de siège est arrivé. Nous avions déjà préparé la nourriture sur la table. Maintenant, ils sont en train de travailler efficacement. Nous les félicitons. Je vous assure, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de besoins. C'est comme ça que je disais il y a quelques jours, notre administration est morte. Comme pour dire, il faut qu'on fasse les états généraux de tous les services, à commencer par la territoriale. Donc, vraiment, un sujet très, très important. Il faut qu'on en parle plusieurs fois. Et pour votre information, par exemple, j'ai vécu à Kinshasa. Présentement, je suis à Bounia. 3 communes sont insuffisantes. Il faut qu'on augmente. Il était prévu 6. Il y a aussi le problème de cartographie. Les entités coutumières incorporées dans la ville souhaitent qu'on les laisse manger d'abord leur terre. Donc ce n'est pas facile. Le gouverneur était obligé d'interrompre les travaux de la cartographie. Donc comme pour dire, il y a problème de limitation. Et comme je le disais tantôt, les chefs d'avenir doivent être considérés comme les entités territoriales décentralisées.
Merci.
Ce n'est pas facile, la commune.
Merci Robert Adjokou et Didra depuis Bounia-en-Ituri. On va finir cette série avec Honoré Tshibouaboua depuis Mbujimayi. Honoré, veuillez activer votre micro. Vous êtes déjà en ligne. On vous écoute. Bonjour. Honoré, veuillez prendre la parole parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Est-ce que vous nous écoutez?
Oui, ça va. Je vais vous écouter.
Allez-y, Honoré. Allez-y rapidement.
Parce que pour session de l'ordre, je les remets en une phrase. C'est une question qui est prise à la légèreté d'un côté par le gouvernant, de l'autre côté par les gouvernés. Vous allez voir, par exemple, dans notre ville de Mbujimayi, que la question simple des déchets, des déchets ménagers, c'est une question qui pose problème. Les avenirs sont transformés en poubelles. Il y a beaucoup de problèmes. Et parce qu'il y a aussi la politisation, il n'y a pas moyen de dépolitiser tout, n'est-ce pas, pour améliorer. Je voulais poser une question, n'est-ce pas, à l'invité. Est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment lui en tant que scientifique peut conseiller aux politiciens de faire pour améliorer cette question? Parce que ce que nous vivons, c'est vraiment un calvaire. Et quelle est la part des habitants dans l'amélioration, n'est-ce pas, ou dans le maintien de l'ordre public? Merci.
Merci beaucoup, Honoré Tshibwaba. On a parlé de la sécurité, il y a la salubrité, il y a des fuites d'eau par-ci, par-là. La part de responsabilité de la population aussi, et de chef de ces entités, monsieur Alidor.
Bon, je commence par notre premier intervenant de Bounia, je crois.
Oui.
Qui a insisté sur le fait que on mobilise beaucoup, on perçoit trop, mais en retour, il n'y a rien. C'est ça aussi, la redevabilité. Nous étions, à notre temps, engagés dans un processus du budget participatif. Ça voudrait tout simplement dire que le 1 franc qu'on devait récolter sur la population devait être affecté à une mission d'intérêt général. Et cela se passait comment? On avait ce qu'on appelait le forum ou le forum des quartiers et le forum de la commune. Et chaque année, lors de comme il a parlé de la conférence, mais nous on organisait ça, on invitait la population pour leur dire, voilà, et on organisait aussi des tribunes d'expression populaire. Après le premier exercice budgétaire, nous devions rencontrer la population pour lui dire, nous avons mobilisé, par exemple, je me rappelle d'une redevabilité que je fais à Bungo, 47 000 $. Vous comprenez? Voilà ce à quoi ces 47 000 $ ont été affectés. Et il y a une quotité qu'on affecte, par exemple, aux ouvrages d'intérêt général. Pour dire, voilà ce que nous avons. Quand il n'y a pas redevabilité, quand la population ne sait pas savoir où est parti ces 10 francs, ces 2000 francs, ces 3000 francs, le problème de paiement des taxes devient un calvaire. Parce qu'ils ne sentent pas la contrepartie de ce qu'ils mobilisent ou de ce qu'ils vous donnent. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, le deuxième intervenant, on ne peut pas percevoir l'argent de l'État pour le détourner. Il faut le mettre au service de la population. Deuxième intervenant a encouragé mes propos en soutenant la technicité de la territoriale. Il faut mettre du sérieux pour que le développement parte de la base, comme le veut la Constitution du 18 février 2006. C'est pourquoi il a levé l'option de la décentralisation. Et il y a le troisième intervenant de Mboujimaï, qui dit, qui demande qu'est-ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne voient pas une solution. Mais ce qu'ils doivent faire, d'abord je reviens sur le gouvernement, j'ai déjà déploré le recrutement, comment il s'est fait, qu'on cesse de politiser la territoriale, qu'on la rende technique, qu'on la rende administrative, pour permettre à ce que les développements suivent. Sinon,
ça sera donc votre conclusion.
Je peux conclure par dire,
donnez-moi l'heure du journal.
Donnez-moi juste quelques secondes. Une seconde. J'ai dit quelque chose. L'État a des missions prophétiques. Qu'on se mette en utilisant ces missions prophétiques, c'est-à-dire la prospective, qu'on se mette à réfléchir sur l'avenir de la décentralisation et de la territoriale.
Merci, professeur Tshibanda.